Charente. Agnès Bonfillon, Alexandre de Saint-Aignan.
Effectivement, l'heure de vous retrouver, Alexandre, pour votre grande édition. Bonjour à vous.
Bonjour Agnès, bonjour Eric, bonjour à tous. À la une, nos dernières informations sur le déroulement de la reconstitution de la mort de Naël hier à Nanterre. L'arrivée du président chinois à l'Elysée en plein bras de fer économique sur la production de véhicules électriques. La menace d'une opération militaire israélienne imminente à Gaza. Des Français qui ont prévu de partir un peu moins en vacances. Et puis, le succès inattendu et fulgurant d'un petit truc en plus, le film d'Artus, meilleur démarrage de l'année pour un film français.
À partir de 13h, dans les auditeurs ont la parole, un menu bien copieux.
Oui, on va parler pour commencer de ces règlements de compte à l'arme de guerre, c'est stupéfiant, hein. Beaucoup de morts ces dernières heures, ces derniers jours, en Seine-Saint-Denis, à Sevran, à Marseille. Avec cette question, est-ce que vous avez le sentiment, on en parle de plus en plus, que la France évolue vers une situation à l'Amérique latine, vous voyez, Mexique, Équateur, ou est-ce que vous considérez que chez nous, cette évolution-là est totalement impossible? Vos arguments au 32-10, on va commencer par ces règlements de compte à l'arme de guerre qui sont assez... subjugant. À tout de suite.
La météo pour cet après-midi, Claire Delorme, à quoi ça va ressembler?
Alors l'ambiance sera encore grise et humide sur la majeure partie du pays et des maximales en baisse par rapport à la veille. Et
les détails à la fin du journal.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Non-lieu ou condamnation, c'est au tour de la justice de trancher au lendemain de la reconstitution de la mort de Naël à Nanterre.
L'adolescent de 17 ans avait été tué l'été dernier par un policier après une course-poursuite, ce qui avait déclenché plusieurs nuits d'émeutes d'une rare intensité à travers la France. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Hier avait donc lieu la reconstitution de la mort de Naël à Nanterre dans le secret. Les journalistes étaient tenus à distance, mais vous avez pu recueillir des informations sur ce qui s'est passé.
Oui, d'abord avec des mesures de sécurité drastiques toute la journée, notamment pour les deux policiers impliqués. Tous les deux n'ont pas quitté pendant 14 heures le gilet pare-balles et la cagoule qui avait été préparée à leur intention, par crainte notamment d'être photographiés depuis des immeubles voisins. La mère de Naël est également entrée dans le périmètre pour assister à la reconstitution. C'est le droit de la partie civile, tout en restant à une vingtaine de mètres de la Mercedes jaune repositionnée à son emplacement du 27 juin. Aucun échange verbal entre la femme de 45 ans et le policier qui a tiré sur son fils. Mais de nombreux regards et un mouvement d'émotion, selon son avocat, quand elle l'a vu apparaître le brigadier hier matin. Ensuite, les juges d'instruction ont été ultra méticuleux, d'après tous les acteurs. Témoins et policiers ont rejoué leur rôle minute par minute. Un expert s'est mis au volant de la voiture pour la faire doucement redémarrer, comme sur les vidéos. Les magistrats vont désormais analyser en détail les vidéos et les nouvelles déclarations faites pendant cette reconstitution.
Merci Thomas Proutot. Les avocats étaient évidemment présents hier lors de cette reconstitution, notamment celui du policier mis en examen, maître Laurent-Franck Liénard.
Cette reconstitution, elle a permis d'établir très clairement que mon client policier dit la vérité depuis le départ. C'est-à-dire qu'il a pu légitimement se sentir en danger, il a aussi évidemment pu sentir le danger pour son camarade et pour les autres citoyens, puisque à 200 mètres de là, il y avait la place Nelson Mandela qui était pleine de monde, et si la voiture déboulait sur cette place comme elle avait roulé précédemment, il était évident qu'elle allait écraser quelqu'un.
Et ce matin sur RTL, l'avocat de la mère de Naël, lui, s'est également exprimé. Il affirme à contrario que le policier n'était pas en danger. Après deux fusillades mortelles qui ont fait 3 morts ce week-end à Sevran, en Seine-Saint-Denis, les suspects sont toujours recherchés. Les victimes étaient connues des services de police pour violence et trafic de drogue.
RTL Midi.
Face au président chinois, Emmanuel Macron plaide pour des règles équitables dans les échanges commerciaux entre l'Europe et la Chine.
Xi Jinping est arrivé ce matin à l'Elysée, reçu par le président français à l'occasion d'une visite d'État qui va durer 2 jours pour les 60 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Bonjour Christophe Bourou.
Bonjour.
En parallèle, ce matin, la filière automobile française avait rendez-vous à Bercy pour s'engager à produire 2 millions de véhicules électriques par an d'ici 2030. Alors Christophe, ça arrive comme par hasard le jour de la venue du président chinois, parce qu'en fait, tout l'enjeu, il est là, hein, au-delà de l'aspect écologique, c'est surtout un bras de fer économique face aux voitures chinoises qui sont en train d'inonder le marché européen.
Oui, l'objectif, s'unir pour faire face à cette concurrence qui ne cesse de monter en puissance. Plus 58% d'exportation l'an dernier avec plus de 4 millions de véhicules. Industrie que Pékin subventionne. Résultat, eh bien, leurs voitures sont jusqu'à 20% moins chères. Alors pour encourager l'achat de modèles fabriqués en France et en Europe, Bercy a annoncé ce matin la poursuite de ses aides au moins l'an prochain, un bonus à l'achat, à condition que la voiture soit fabriquée sur le vieux continent, ou encore le leasing social. Vous savez, la voiture à 100 euros par mois pour les foyers les plus modestes. Un point crucial pour Marc Mortureux, directeur général de la PFA, la plateforme automobile qui représente toute la filière.
On va avoir dans les deux ans à venir, 2024-2025, de très nombreux véhicules électriques fabriqués en France, que ça soit côté Renault, que ça soit côté Stellantis. Il faut absolument nous accompagner pour que ces nouveaux modèles, hein, je pense à la R5 électrique, à la 3008 électrique par exemple, soient des succès. Et pour cela, on a besoin d'être accompagnés.
Ouais, des aides pour rester compétitif et au-delà, garantir la survie des usines et près de 900 000 emplois dans la filière en France.
Merci Christophe Bourreau pour RTL.
L'armée israélienne parle d'une opération d'ampleur limitée. Environ 100 000 Palestiniens sont appelés à évacuer l'est de la ville de Rafah.
Alors que l'espoir d'une trêve semble à nouveau s'éloigner, les négociations sont dans l'impasse entre Israël et le Hamas. Bonjour Émilie Beaujard.
Bonjour.
Du service international de RTL. Ça fait des semaines que l'armée israélienne menace de rentrer dans la ville de Rafah. Cet appel à évacuer, c'est le signe d'une offensive militaire imminente.
Et oui, et c'est ce que craignent les 1,5 million de déplacés à Rafah. Rami, que nous suivons depuis le début de la guerre, y est réfugié dans un appartement. Il n'est pas encore concerné par l'ordre d'évacuation, mais ça se joue à quelques centaines de mètres seulement. Plus à l'est, les habitants ont reçu, eux, des tracts et des messages vocaux leur demandant de se déplacer.
Bah, c'est la panique, c'est la peur. Et tout le monde regardait la carte avec les blocs, parce que l'armée, ils ont divisé Gaza en plusieurs blocs. Et donc chacun, il regarde est-ce qu'il est concerné dans ce bloc ou là, ou le jour où il est concerné, tout le monde part.
Certains ont même anticipé et ont déjà bougé vers d'autres endroits de la bande de Gaza ces derniers jours, des endroits sans infrastructure, parfois sur la plage ou alors sur des décombres. Rami, qui a déjà dû évacuer la ville de Gaza en novembre dernier, est prêt à partir à nouveau s'il le faut.
J'ai une tente qu'un ami à moi m'a envoyée depuis Paris pour ces personnes. C'est vrai que c'est juste pour le camping, mais on va l'utiliser comme un abri ou bien au refuge pour nous. Ouais. L'essentiel pour moi, c'est pour les enfants, les médicaments, pour valider les couches.
Les ONG s'inquiètent déjà pour l'aide humanitaire qui transite par Rafah. En cas d'offensive, la distribution sera fortement impactée.
Merci Émilie Mojard pour RTL.
RTL Midi.
À midi 38, RTL vous l'a révélé ce matin, 4 Français sur 10 ne prendront pas de congé cet été.
C'est un petit peu plus que l'an dernier, selon le sondage du comparateur en ligne Liligo.com. Peut-être une conséquence de l'inflation, mais ceux qui partiront en revanche ont prévu de dépenser plus que d'habitude avec un budget moyen de 1 217 €, presque 100 euros de plus que l'an dernier. Jean-Pierre Mas, médiateur du tourisme et du voyage.
Nous observons exactement la même tendance et cette tendance n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que l'écart se creuse entre les Français qui peuvent partir en vacances et qui augmentent leur budget consacré aux vacances et les Français qui ne peuvent pas accéder aux vacances et notamment qui ne peuvent pas accéder aux vacances dans le secteur marchand, c'est-à-dire qui peuvent prendre des vacances éventuellement plus courtes dans la famille et peut-être et rarement dans une résidence secondaire. Et les Jeux Olympiques vont accroître cet écart parce que du fait des Jeux Olympiques, les prix ont augmenté. Le prix de l'hôtellerie a augmenté très fortement à Paris et sensiblement dans les autres régions de France, ce qui fait que ça rend l'accès aux vacances plus compliqué pour ceux qui prouvaient déjà des difficultés pour y accéder.
Des propos recueillis par Nathan Bocard pour RTL.
Comptez-vous partir cet été d'ailleurs, les amis, hein ?
Ben on va essayer, oui.
On va essayer, oui.
Ou est-ce que pour vous, les vacances, ce sera à la maison ou au travail ? C'est important, puisque les statistiques nous disent qu'énormément de Français ne partent pas en vacances. Venez nous raconter cela au 32-10. Les auditeurs ont la parole. C'est dans combien de temps ? Tiens, dans à peu près 20 minutes, tout à l'heure, à partir de 13h, les amis.
En tout cas, si vous avez prévu de profiter des ponts du mois de mai pour prendre quelques jours de repos, sachez qu'il y aura beaucoup de monde sur la route demain. Bison futé hisse le drapeau rouge dans toute la France dans le sens des départs, des jours fériés qui seront peut-être pour vous l'occasion d'aller au cinéma. Il y a un film qui est en train de cartonner depuis quelques jours, c'est le film d'Artus qui s'appelle Un petit truc en plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est l'histoire d'un braqueur en cavale dans une colonie de vacances pour adultes handicapés et ce film, il est en train de faire le meilleur démarrage de l'année pour un film français, Artus, qui était ce matin notre invité.
C'est complètement fou, on est sur les chiffres du Dîner de cons et d'Amélie Poulain, donc c'est improbable. On peut pas être préparé à ça. Moi, je me souviens, la veille, je mangeais avec mes producteurs et on se dit, vous imaginez si demain on fait 80 000, ça serait fou, non, pour un premier jour. Et on se réveille le lendemain et on nous dit, on a fait 280 000. Ah oui, non, on peut pas se préparer à ça. J'ai l'impression que les gens, quand on leur parle d'un truc qui fait pas écho avec l'actualité, qu'on les emmène un peu ailleurs, je pense qu'ils ont envie, en tout cas, de se dire, pendant une heure et demie, on va pas me parler de tout ce qui se passe dans le monde, qui est là, qui existe, mais qui, voilà, je pense que ça fait du bien aussi, des fois, de déconnecter un petit moment et de... Ouais, une petite respiration.
Voilà le réalisateur et acteur Artus, ce matin, sur RTL. Un mot de football pour terminer. Ce soir, dernier match de la 32e journée de Ligue 1. Lille qui reçoit Lyon à 21h. Objectif pour les Lillois, le podium et une place peut-être en Ligue des Champions. Conseil, en attendant, allez écouter notre podcast quotidien on refait le match avec cette question posée par Florian Gazan à Eric Silvestro. La Ligue 1 est-elle malade de ses arbitres? C'est à retrouver en ligne gratuitement sur RTL.fr et sur l'appli RTL.
Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. Nous aussi on a une question pour vous, Claire Delorme. Qu'est-ce qui se passe? En mai, fais ce qu'il te plaît. On est loin de ce dicton là.
C'est vrai qu'on est très loin de ce dicton, mais encore un petit peu de patience Agnès, car à partir de mercredi, bien ce dicton va pouvoir s'appliquer avec l'anticyclone qui va à nouveau s'imposer. Donc en attendant, c'est vrai, cet après-midi, il faudra encore composer avec un temps gris et instable sur la majeure partie du pays. Ça se traduit par beaucoup de nuages et des pluies faibles à temporairement marquées sur tout flanc est du pays en passant par la Méditerranée et les Pyrénées avec encore de la neige à très haute altitude à partir de 1200 mètres. Et puis, on a un temps beaucoup plus changeant à l'ouest, mais là aussi, on peut avoir des averses qui vont se développer avec en prime quelques orages par endroit. Ça va surtout être vers la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, et puis progressivement glisser là aussi plus vers les frontières de l'Est. Donc en attendant, bien cet après-midi, ça restera un petit peu plus sec et nuageux des Hauts-de-France en direction des régions centrales. Pour les températures, il faudra compter 14 à 18 degrés en général et ça pourrait grimper jusqu'à 17 voire 21 degrés vers le littoral méditerranéen et l'île de Beauté.
Merci beaucoup Claire. Dans un instant sur RTL, nous parlons d'un procès qui s'ouvre cet après-midi aux assises d'Aix-en-Provence, le procès du baiser de la mort et qui concerne des mafieux corses. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Agnès Bonfillon, Éric Brunet.